Dès la naissance de leur petit bout de chou, les parents apprennent que le nouveau-né veut qu'on s'occupe de lui ou qu'on le console sans arrêt, et ça ne s'arrête pour ainsi dire jamais, sauf quand il dort ou est occupé à quelques tâches. Même adulte, l'être humain est de constitution physique fragile qui fait qu'il se décourage facilement et a donc ce besoin constant d'être réconforté. Dieu nous a fait ainsi et il en tient compte. Ésaïe a prophétisé toute une série de jugements à l'encontre d'Israël et du monde, mais il consacre une majeure portion de son livre à la consolation. Dans le chapitre 40, il a rappelé le salut promis à son peuple et a montré que ce salut est certain, parce que fondé sur la toute-puissance du Dieu créateur. Il continue sur ce thème en annonçant la venue d'un libérateur envoyé par l'Éternel lui-même. Ésaïe privilégie l'aspect relationnel entre l'homme et Dieu, mais rappelle souvent sa souveraineté sur la création et dans l'histoire. Je commence à lire le chapitre 41. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières, que les peuples lointains raniment leur courage, qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Ésaïe 41, verset 1er. Cet appel au silence ouvre les délibérations imaginaires d'un tribunal où Dieu fait face au monde païen en lui posant une question qui est une mise à l'épreuve. Les païens sont appelés à la barre pour défendre leur Dieu. Cette confrontation entre la lumière et les ténèbres est inévitable. Les païens ne sont pas invités à une négociation, mais à s'humilier devant le Seigneur et à reconnaître sa souveraineté. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'accepter le salut qu'il offre gratuitement à tous ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ. Je continue. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite, auquel il livre les nations et assujettit les rois? Son épée les réduit en poussière et son arc en fait une paille qui s'envole. Ésaïe 41, verset 2. L'Éternel va exercer ses jugements sur les nations, ce qui sera un prélude à la justice qu'il établira sur terre pendant le millénium. Plus loin, Ésaïe mentionne Cyrus, par qui Dieu va punir Babylone pour avoir déporté le royaume de Juda. Fondateur de l'Empire perse, dont il est le premier empereur, Cyrus fait d'abord la conquête des Mèdes, un peuple dont le territoire est aux abords de la mer Caspienne et qui est aujourd'hui en Iran. Cyrus devient alors le roi et avec leur soutien, il remporte une série de victoires fulgurantes. Cyrus est l'instrument de Dieu pour punir les nations et surtout Babylone qu'il cueille tout en douceur comme un fruit mûr sans tirer une seule flèche. Comme il n'a aucun grief contre les Juifs, il les autorise à retourner dans leur pays. Je continue le texte en compressant. Qui accomplit cela? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Ésaïe 41, verset 4. Cette affirmation du caractère incomparable de l'Éternel, le seul vrai Dieu, revient plusieurs fois dans les prochains chapitres. L'Éternel, qui transcende l'espace-temps, est le maître de l'histoire et le souverain sur toutes les nations, même celles dirigées par un despote. Je continue. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent. Ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» Le fondeur de l'idole encourage l'orfèvre, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» Et il la fixe avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Ésaïe 41, les versets 5 à 7. Terrorisé par l'avancée perse, les païens se couvrent de ridicule en fabriquant en toute hâte des idoles, afin, espèrent-ils, d'obtenir la faveur de leur Dieu. Je continue. Quant à toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, est descendance d'Abraham, qui était mon ami. Toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités. Toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Ésaïe 41, les versets 8 et 9. Quant à toi, dénote une chaleur soudaine qui contraste avec le paragraphe précédent. Les paroles que le prophète adresse à Israël sont pleines de tendresse afin de le rassurer. L'expression « mon serviteur » reviendra plusieurs fois et désigne soit le peuple d'Israël, soit le Messie. Abraham, Jacob et ses descendants ont effectivement été choisis par l'Éternel pour être son peuple. Et pourtant, on sait combien les patriarches, et surtout Jacob, étaient tordus, roublards. Mais Dieu les a bénis malgré tout leur travers. C'est de bon augure pour moi. Abraham est appelé l'ami de Dieu, et dans les Écritures, et aussi par les Arabes. Le Coran le nomme l'ami, et la ville d'Hébron, où il habitait, s'appelle El-Shalil, qui veut dire le bien-aimé. Je continue en pressant. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Ésaïe 41, les versets 10 à 13. La longue chaîne de promesses montre qu'Israël n'a rien à craindre, surtout que dans le passé, l'Éternel a prouvé sa fidélité à son peuple et un jour, il le rétablira dans son royaume. Au travers des siècles, ce verset a été une source d'encouragement et de réconfort pour les croyants. Dieu désire qu'on lui fasse confiance, marche avec lui et apprenne à le connaître en toute simplicité de cœur. Je continue. Sois donc sans crainte, vermisseau ou poux de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, ton sauveur, c'est le Saint d'Israël. Ésaïe 41, verset 14. Le vermisseau ou le poux est un insecte vil et négligeable qu'on écrase du pied. Tel est Israël. Craintif et chétif, impuissant et misérable, exilé à Babylone. Mais l'Éternel est son sauveur. Le mot ainsi traduit désigne un champion, un défenseur, celui qui prend en main la cause de quelqu'un. Quand on y réfléchit, nous sommes tous des misérables vermisseaux, des quantités insignifiantes, des rien du tout. L'homme s'agite comme un pantin sur la scène de la vie. Il gonfle la poitrine et souffle de toutes ses forces comme le loup dans l'histoire des trois petits cochons. Mais au juste, à quoi ça le mène tout ce qu'il fait? Devant la futilité de la vie, certains choisissent la mort. Je les comprends dans la mesure où, sans Dieu, effectivement, la vie n'a aucun sens. Dans son évangile, Jean rapporte que Jésus a dit aux Juifs, « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Jean 10, verset 10. Je continue. « Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver. Et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne le délaisserai pas. » Ésaïe 41, les versets 15 à 17. Juste avant d'établir son royaume sur terre, le Seigneur vaincra les nations qui persécute les Israélites partout dans le monde. Mais ensuite, de retour dans leur pays, ils seront abondamment bénis. Je continue plus loin en compressant. Vous, les dieux des nations. Présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Annoncez-nous les choses qui doivent survenir plus tard, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit se rend abominable. Après une pause, le procès contre les idoles reprend. L'Éternel les accuse d'être incapables de prédire l'avenir ou de faire quoi que ce soit prouvant au minimum qu'elles existent. Seul le vrai Dieu peut intervenir dans le cours de l'histoire et seuls ses prophètes sont capables d'annoncer l'avenir sans erreur. Une idole n'est pas forcément une figurine, mais tout ce qui se met entre le Créateur et sa créature. Ce peut être l'argent, le travail, la famille, les loisirs, une personne, un hobby, une religion, peu importe. Tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie d'un être humain est son idole. L'homme moderne est en adoration devant la raison et la science. Mais celui qui fait confiance à sa propre jugeote ne peut connaître ni ses origines, ni son avenir. Alors, il invente des trucs farfelus et essaye ensuite de prouver que ses théories sont justes. Les scientifiques sont forts sur les détails, mais incapables de faire un lien entre eux. L'ophtalmologue connaît très bien l'œil humain, mais il n'a pas la moindre idée d'où il vient. Pourquoi il y en a deux et comment ils se sont greffés en bas du front? Un étudiant en anatomie animal faisait sa thèse de doctorat sur l'œil du moustique. Voilà un sujet inhabituel. C'est certainement passionnant, pendant 5 minutes. Un jour, dans son laboratoire, il s'est dit « Je ne vais quand même pas passer le reste de ma vie dans l'œil d'une bestiole. » À la fin de ses études, il s'est converti à Jésus-Christ et depuis, il est prédicateur de la bonne nouvelle. Sa vie a maintenant un sens. Je continue. Je l'ai suscité du Nord et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom, il piétine les dirigeants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Ésaïe 41, verset 25. L'Éternel a choisi Cyrus pour punir les nations idolâtres. Bien que polythéiste, Cyrus honore l'Éternel et le considère comme un dieu puissant, mais un dieu parmi d'autres, tout comme d'autres rois païens comme Nabucodonosor, par exemple. Je finis de lire le chapitre 41 en compressant. « Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions ?» Non, personne ne l'a prédit, personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que parmi ces dieux-là, je n'ai pas trouvé un seul conseiller. Si je les interroge, ils ne répondent pas. Eux tous, ils ne sont rien. Leurs œuvres sont néant et leurs statues de fonte, du vent et du vide. Ésaïe 41, 26 à 29. Ésaïe conclut la polémique contre les idoles en faisant le constat qu'elles sont totalement inutiles. Elles sont incapables de prédire quoi que ce soit, alors que l'Éternel annonce longtemps à l'avance les événements à venir parce que c'est lui qui les produit. La bonne nouvelle est le décret de Cyrus qui permet aux Israélites de retourner dans leur pays. Selon le discours du prophète concernant les faux dieux, était nécessaire parce que l'idolâtrie a toujours exercé une forte attraction sur le peuple de Juda. Nous arrivons au chapitre 42 qui nous présente le serviteur de l'Éternel. Ésaïe a déjà utilisé ce titre pour désigner Israël, car c'est ce qu'il est en vertu de son appel. Mais ici, à cause des qualités attribuées à ce serviteur, il est évident qu'il s'agit du Messie. La révélation parfaite de l'Éternel est l'exécuteur de ses desseins. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus a clairement expliqué sa mission sur terre quand il a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc 10, verset 45. Je commence à lire le chapitre 42. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice pour les nations. » Ésaïe 42, verset 1er. La justice sera la caractéristique première du royaume que le Christ établira sur terre. Tous ceux que dans le passé Dieu a choisis pour le servir recevaient l'Esprit. Mais en plus, Jésus fait aussi toute la joie du Père. Une parole qui est reprise plusieurs fois dans les évangiles. Je continue. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Ésaïe 42, les versets 2 et 3 comparés, Matthieu 12, versets 15 à 20. Confiant dans la puissance de la vérité, Jésus remplit son ministère sur terre sans violence. Bienveillant et tendre, il prend soin des faibles et des opprimés. Indulgent, il ne condamne pas, et s'il bouscule ceux qui ont la foi, il les conduit avec douceur. La bonté envers les petits et les faibles est l'une des caractéristiques du Messie. Je continue. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Ésaïe 42, verset 4. Jésus est persévérant, patient, et il poursuit ses objectifs jusqu'au bout. Sa loi est la nouvelle alliance qui a remplacé celle de la loi de Moïse. Je continue plus loin. Moi, l'Éternel, moi je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main, je te protégerai, et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Ésaïe 42, les versets 6 et 7. Jésus est en lui-même le médiateur de l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Il est un nouveau Moïse et sa mission s'étend à toutes les nations. Il est venu pour apporter la lumière et il a ouvert les yeux de ceux qui étaient physiquement et spirituellement aveugles, prouvant ainsi qu'il était bien le Messie promis. Je continue. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les prophéties anciennes se sont réalisées et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Et avant qu'il ne germe, je vous l'ai fait connaître. Ésaïe 42, les versets 8 et 9. Le nom Éternel exprime qu'il est la source de toute vie, que sa souveraineté est absolue et qu'il ne se laisse pas surplanter par quiconque. Les événements nouveaux sont la captivité babylonienne, la libération par Cyrus et les prédictions concernant l'établissement du royaume messianique. Je continue. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, entonnez sa louange aux confins de la terre, vous qui voguez sur les mers, et vous qui la peuplez, vous les îles et les régions côtières, vous qui les habitez. Désert et ville du désert, campement de Kédar, élevez vos voix, habitants de Sela ou habitants des rochers, exultez d'allégresse, du sommet des montagnes, poussez des cris de joie et rendez gloire à l'Éternel, que jusque dans les îles et les régions côtières, on publie sa louange. Ésaïe 42, les versets 10 à 12. Séla, ou Pétra, est la capitale des Édomites, et Kédar représente les tribus d'Arabie. À la fin des temps, des hommes de toutes les nations seront sauvés et entreront dans le royaume messianique et entonneront un cantique nouveau. Je continue. L'Éternel sortira comme un héros. Comme un homme de guerre, il réveillera son ardeur. Il poussera des cris de guerre, des cris terribles, et il triomphera contre ses ennemis. Je me suis tu pendant longtemps, j'ai gardé le silence, je me suis contenu, mais maintenant, Comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements et je respire en haletant. » Ésaïe 42, les versets 13 et 14. À cause de son amour passionné pour son peuple captif de Babylone, l'Éternel a du mal à se contenir, mais maintenant sa patience est à bout. L'heure de la délivrance a sonné et c'est avec violence qu'il va intervenir. Ce qu'exprime bien le vocabulaire « homme de guerre »,« cri de guerre »,« femme qui enfante ». Cette dernière image est unique dans les Écritures et s'accorde aussi avec le Messie souffrant qui expie les péchés. Je continue le texte. « Je m'en vais dévaster montagnes et collines et j'en dessécherai toute végétation. Je changerai les fleuves et j'en ferai des îles. J'assécherai les lacs, les aveugles. Je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Mais ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues de fonte « Nos dieux, c'est vous !» devront se retirer couverts de honte. » Ésaïe 42, les versets 15 à 17. À la fin des temps, l'Éternel anéantira les oppresseurs de son peuple, et Israël reconnaîtra enfin Jésus comme son Messie. Alors sa misère sera changée en bénédiction et toutes ses difficultés seront aplanies. Je continue. Vous, les sourds, écoutez, vous, les aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et qui est sourd, sinon mon messager, mon envoyé? Qui est aveugle sinon celui que l'Éternel réhabilite, et qui est sourd sinon le serviteur de l'Éternel? Tu as vu bien des choses, tu n'as rien retenu. Tu as les oreilles ouvertes, tu n'as rien entendu. Ésaïe 42, les versets 18 à 20. Ici, le serviteur représente les Israélites et ses paroles. D'une part, font le portrait inverse du vrai serviteur qui est le Messie. Et d'autre part, anticipent leur question. Pourquoi sommes-nous oppressés par Babylone? C'est parce qu'ils ont été rebelles et n'ont pas écouté les avertissements des prophètes. Je continue en compressant. Mais à cause de sa justice, l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Ésaïe 42, les versets 21 et 22. Les stipulations de la loi de Moïse sont extraordinaires par l'ampleur des bénédictions et malédictions qui lui sont attachées et qui découlent de la justice de Dieu. Le pire est arrivé. Les Israélites se sont révoltés contre leur Dieu et ont dû subir son châtiment et l'exil. Je finis de lire le chapitre 42 en compressant. Qui parmi vous prêtera donc l'oreille pour écouter? À l'avenir, il a livré Jacob et ceux qui le dépouillent. N'est-ce pas l'Éternel, envers qui nous avons péché, et dont nous avons refusé de suivre les sentiers qu'il nous avait prescrits? Oui, ils n'ont pas obéi à sa loi. Alors, il a versé sur Israël l'ardeur de son courroux. Il a fait déferler sur lui de violents combats. Sa colère a flambé autour de lui sans qu'Israël le reconnaisse. Le feu l'a embrasé sans qu'il y prenne garde. Ésaïe 42, les versets 23 à 25. Les Israélites ont systématiquement désobéi à la loi. Même punis, la plupart du temps, ils refusaient de se repentir. Et après avoir été détruits les uns par les Assyriens, les autres par les Babyloniens, et avoir vu Jérusalem détruit, ils sont restés indifférents à l'Éternel. À cause de sa justice, Dieu doit juger le mal, mais heureusement, il est aussi riche en grâce.